peut-être avec la publication à 14h30 aux États-Unis de l'indice des prix à la production. Sur le marché de l'or, à Londres, l'once de métal fin cote au premier fixing 437,95$. Quant au CAC 40, il abandonne 0,20% à 3813 points. La Bourse de Paris, c'était Vincent Bezeau pour France Inter.
Merci Vincent, vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, un grand témoin, une des figures les plus singulières et les plus inclassables de la politique française, Jean-Pierre Chevènement.
Il est temps de sortir du système binaire. Toc toc. Chirac, Jospin, Jospin, Chirac. Il faut sortir de ce système binaire appauvrissant pour le débat démocratique.
D'histoire. Il refuse les clivages partisans, renvoie dos à dos, on vient de l'entendre, Lionel Jospin et Jacques Chirac, admire aussi bien le général de Gaulle que Pierre Mendès France. Il est résolument de gauche, mais il a sur la sécurité, l'immigration, l'éducation nationale et l'Europe des idées qui rejoignent parfois celles de la droite. Jean-Pierre Chevènement est incontestablement une des figures les plus originales et les plus imprévisibles de la politique française. Après avoir contribué à porter François Mitterrand à la tête du Parti Socialiste, puis à l'Élysée, cet enfant terrible de la gauche n'a pas eu peur de renoncer trois fois à ses fonctions ministérielles parce qu'il désapprouvait les dérives libérales, affairistes et atlantistes de son parti. Cela lui a valu bien sûr les foudres d'une partie de la gauche, mais sans jamais entamer ni le goût de l'action ni le sens de l'humour, que Jean-Pierre Chevènement a toujours eu, même au pire moment de sa vie, quand il revenait dans son ministère de l'Intérieur après avoir passé plusieurs jours dans le coma. France Inter, Christophe Ondelat, le 4 janvier 1999.
Jean-Pierre Chevènement n'est pas, loin de là, le premier à avoir fait l'expérience de l'autre rive, celle qui sépare la vie de la mort. Mais voilà, lui, il est ministre, il est connu. C'est donc en demi-dieu qu'il a été accueilli ce matin à son ministère par ses collaborateurs et ses collègues ministres venus le voir de près, le toucher, vérifier qu'il était bien vivant, et par les journalistes qui lui ont offert la première bousculade de sa rentrée politique. On a parfois frisé l'hystérie collective. Écoutez la photo sonore réalisée par Sonia Princey.
Reculez un peu ! Reculez ! Prenez... Recule.
Je vais aussi bien que possible, merci. Je peux vous dire que mes globules rouges sont au rendez-vous, que je leur avais fixé, rassemblés, prêts à faire front.
Jean-Pierre Chevènement, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était votre retour et celui de vos globules rouges quand vous reveniez il y a 5 ans au ministère de l'Intérieur après avoir fait un passage sur l'autre rive, comme le disaient les journalistes de l'époque. Vous retrouviez votre humour, votre goût de l'action et pourtant vous dites que cette épreuve vous a changé.
Je ne sais pas si elle m'a changé. Fondamentalement, je ne crois pas. Mais bien sûr, on mesure que le temps désormais vous est compté. Et j'ai trouvé une très belle phrase dans les pensées de Marc Aurèle. Il faut accomplir chaque acte de ta vie comme s'il était le dernier. Donc voilà, je m'en suis un petit peu inspiré.
C'était le cas en 98-99, je suppose. Alors, vous aviez 60 ans, vous êtes né à Belfort en 1939. De quand date votre envie de faire de la politique ?
Mon enfance a été bouleversée par la Deuxième Guerre mondiale. Je suis né en 1939. Mon père, qui était mobilisé, a été fait prisonnier. Et par conséquent, j'ai vécu toutes ces années-là avec ma mère, à l'écoute des nouvelles. Nous suivions sur la carte la progression des forces alliées. Et j'avais quand même le sentiment que le monde extérieur existait puissamment. Donc je pense que je suis un enfant de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai été très marqué par la guerre d'Algérie, puisque j'ai été appelé en 1961-62. Je suis revenu d'Algérie en 63. J'ai d'abord été sous-lieutenant à Cherchel, puis dans les SAS, puis... j'ai été volontaire pour être chef de cabinet du préfet d'Oran au moment de la période de l'OAS. Puis je suis resté en Algérie pour assurer le contact avec les militaires de l'ALN et pour aider aux recherches qui pouvaient être faites concernant nos compatriotes disparus, disons que voilà.
Oui, Oran, il faut le rappeler, en 62, c'était l'extrême fin de la guerre d'Algérie, la disparition, l'enlèvement de plusieurs centaines de pieds noirs à l'époque, et puis aussi le massacre des Harkis. Je crois que vous en avez même vu, dont vous étiez le chef à un moment donné, mourir sous vos yeux, Jean-Pierre Chevènement.
C'était le jour du cessez-le-feu, ça peut paraître paradoxal, mais dans la nuit du 18 au 19 avril, à Sainte-Nulucig, en effet, une douzaine de Morazni, qui appartenaient donc aux Marzen, qui dépendaient de la SAS du Crouf de Saint-Denis-du-Sig, ont été massacrés. Il y a eu l'intervention de la Légion étrangère. Tout cela s'est fait dans une atmosphère assez apocalyptique. J'ai vécu ça de près. Les Harkis, c'était autre chose. Les Harkas, c'était des formations qui aidaient l'armée régulière. Les Morazni étaient au sein des SAS, c'est-à-dire ce qu'on appelait les affaires algériennes héritières des bureaux arabes, où j'avais choisi d'être affecté à ma sortie de Cherchel. Ensuite, comme les SAS ont été dissoutes, j'ai été volontaire pour aller à la préfecture d'Oran, parce que j'avais clairement conscience que l'indépendance de l'Algérie était inéluctable, et je voulais que cela se fasse dans l'amitié, dans la coopération avec la France. Je voulais préserver l'avenir, et je pensais que je pouvais me rendre utile.
Alors, la transition a dû être difficile, puisque vous aviez déjà été admis à l'ENA, mais il fallait d'abord que vous fassiez votre service militaire. Vous rentrez en France pour entrer, donc, pour suivre les cours de l'ENA. Une expérience qui a pas laissé que de bons souvenirs, je pense, Jean-Pierre Chevènement, puisque 2 ans à peine après votre sortie de l'ENA, vous publiez un pamphlet sur votre école, L'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise, votre premier livre, mais comme vous étiez fonctionnaire, il était anonyme, et signé du nom étrange de Mandrin, un pseudonyme qui intrigue les participants à une émission de France Culture du 24 novembre 1967.
Jacques Mandrin, l'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise. Mais Jacques Mandrin,
c'est un pseudonyme.
C'est un anonyme pseudonyme.
Collectif ?
À plusieurs têtes.
Autant qu'on puisse savoir.
Enfin, c'est un mystère.
Un mystère qu'il faut conserver. C'est un secret d'État.
Enfin, quand l'auteur, M. Jacques Mandrin, dit des anciens élèves ou des élèves de l'ENA, ils n'ont gardé de la Marseillaise que ses paroles, nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'en pourront plus, c'est quand même de
il
vous.
Faudrait.
Vous vous moquez d'André Siegfried, qui, ce patriarche qui restera dans les mémoires comme l'immortel inventeur du plan en trois parties, qu'il imposait, dit Jacques Mandrin, avec un soin tatillon à la moindre banalité, l'Angleterre, premièrement, est une île, deuxièmement, entourée d'eau, troisièmement de toutes parts. Moi, je trouve que c'est un livre quand même très amusant et qui se lit avec joie, enfin, et volupté.
Je ne sais pas si vous l'avez lu avec volupté, Jean-François, mais moi, je lis. À l'ENA, malgré l'âge des élèves plus élevé que dans les autres écoles, beaucoup d'entre eux manquent de maturité sexuelle et quelquefois d'expérience. C'est écrit dans l'énergie.
Jacques Mandrin, Jean-Pierre Chevènement, Jacques Mandrin, c'était vous.
C'était Didier Mochan, Alain Gomez et moi-même. Et
vous-même.
Hein. Nous étions partagés les parties, et c'est un livre dont je peux vous dire qu'il a été écrit en 3 semaines.
Vous crachez un peu dans la soupe déjà, si je puis dire. C'est-à-dire l'ENA, d'où vous sortez.
Non. Parce que, en fait, moi, j'ai gardé un très bon souvenir de Sciences Po, particulièrement de sa bibliothèque et de ses professeurs. Mais je n'ai pas retrouvé cela à l'ENA. Je n'ai pas appris beaucoup plus de choses à l'ENA que je n'en savais déjà après Sciences Po. On apprenait à faire le plan en 3 parties ou en 2 parties. C'est l'anatomiste, quoi. L'ENA, c'est cela. J'ai aussi appris à servir le vin et à donner... Mon préfet, dans le Morbihan, m'a appris à donner le petit coup de poignet qui évite que la goutte de vin tombe
utile,
sur la nappe.
Hein,
c'est très utile.
Vous dites aussi l'ENA, section française de l'international capitaliste.
Ça, je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas souvenir d'avoir écrit cela. Mais c'était excessif. En tout cas, à l'époque, est-ce que ça allait davantage devenu avec la pratique du pantouflage? Ce n'est peut-être pas si mal vu.
C'était l'époque aussi, je crois que c'est en 64, que vous entrez dans une vieille organisation déjà à l'époque, c'est l'ancien Parti Socialiste, l'ASFIO. Vous êtes en même temps gaulliste, dites-vous, Jean-Pierre Chevènement. Vous aviez 2 personnes qui vous ont marqué, c'était Pierre Mendès-France à gauche et le général de Gaulle, donc difficile à classer lui-même.
Oui, Pierre Mendès-France au début, j'avais 15 ans. Et le général de Gaulle ensuite, parce que j'ai vite compris qu'il était le seul capable de remettre la France sur orbite, de la désengager du bourbier algérien. Et au fond, je lui en suis reconnaissant, même si ça s'est fait dans les conditions qu'on aurait certainement pu éviter, mais ça aurait supposé que l'histoire prit un autre cours. Et puis, de Gaulle est quand même à l'origine d'une grande politique étrangère, dont j'ai essayé de persuader les dirigeants de la CFIO, mais c'était peine perdue. Et le CRS, qui était au départ un laboratoire d'idées, est très vite devenu un mouvement politique. Quand nous avons pris la Fédération de Paris, nous avons inventé le Point à la Rose, et nous avons recruté...
C'est vous, le Point à la Rose.
Oui, c'est 1971,
aujourd'hui.
Repris en 1971 par François Mitterrand. Aucun droit d'auteur.
Alors 1971, c'est important, vous le citez, vous venez de le dire, 71, c'est évidemment le congrès d'Épinay. À l'époque, la SFIO s'appelle déjà l'EPS, mais elle est dirigée par Alain Savary. Et voilà donc qu'arrive François Mitterrand. Vous-même, vous animez une organisation chargée, un centre d'études, le CRS, le centre d'études de recherche, je crois, et d'éducation socialiste, chargé de rénover un peu ce vieux parti socialiste. Vous représentez environ 9% des voix au congrès d'Épinay, mais vous permettez à François Mitterrand de prendre la tête du Parti Socialiste, dont il n'avait même pas la carte à l'époque. C'était donc à Épinay, en juin 71, quand François Mitterrand tenait des propos que n'aurait pas désavoué Lénine, et c'était pour devenir le chef du Parti Socialiste.
Violente ou pacifique, la révolution, c'est d'abord une rupture. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste.
Mitterrand, 43 926. Savary, 41 757.
C'était à Épinay en 1971, quand les socialistes chantaient encore l'Internationale, quand François Mitterrand avait des accents léninistes ou léniniens, Jean-Pierre Chevènement. Ça paraît loin, tout ça?
Mais je vous fais observer d'abord que le coup est passé très près. Il n'y a que 2000 voix d'écart sur 40 000 de part et d'autre.
Et que vous avez joué un rôle là-dedans.
Ah, le CRS avait 8500 voix. Donc, vous voyez que son apport a été...
Vous les avez donnés à François Mitterrand.
Tout à fait décisif. Mais vous savez, l'internationalisme est une idée juste. Il faut que les nations qu'on ne doit pas éradiquer, bien au contraire, se donnent la main. C'est une conception tout à fait défendable. Je pense que c'est une erreur de penser que l'européisme, par exemple, se serait substitué à la vieille tradition internationaliste. Alors, on peut faire rimer cela de manière différente, mais Jaurès avait tout dit. Quand il disait un peu d'internationalisme éloigne de la patrie et beaucoup y ramène.
Mais là, je pensais plutôt à François Mitterrand. Et c'est quand même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de rapports, qui ne vous ressemble pas, Jean-Pierre Chevènement. Vous l'avez porté à la tête du PS, ce qui va lui permettre d'arriver à la tête de l'État. Est-ce que vous n'avez pas eu, pourquoi vous l'avez-vous fait? Est-ce que vous avez pas eu le sentiment d'un marché de dupes? Est-ce que vous avez cru aux propos révolutionnaires de François Mitterrand à Épinay, ou est-ce que, ou non?
Pas vraiment, mais je constatais que François Mitterrand était l'homme de l'Union de la Gauche depuis 1965, avec le double feu vert de Guy Mollet et de Valdécrochet. 43% des Français, 45% des Français avaient voté pour lui. Donc, il était le levier d'une espérance que, par ailleurs, nous essayions bien de canaliser. Et au soir d'Épinay, François Mitterrand m'a nommé secrétaire national du Parti Socialiste chargé du programme, Georges Sarr chargé de l'organisation et des fédérations. Nous espérions bien peser, et nous avons d'ailleurs pesé, la stratégie du Parti Socialiste, l'alternance de 81, le contenu de la politique qui était alors celle du Parti Socialiste, c'était quand même un peu nous.
Et la victoire donc de François Mitterrand le 10 mai 1981, lorsqu'à 20h sur TF1, Jean-Marie Cavada annonçait donc aux Français que pour la première fois depuis 23 ans, la gauche revenait au pouvoir.
20h, et ceci constitue une première estimation, mais il y a de bonnes raisons de penser que les chiffres sont assez significatifs. Voilà l'estimation. 20h, François Mitterrand aurait obtenu, selon la Sofrèche, je vous en prie, non. Les gens qui vous regardent aimeraient regarder tranquillement et je vous en remercie. 51,7%. Et Valérie Giscard d'Estaing aurait obtenu 48,3%. Dans cette hypothèse, 51,7, François Mitterrand deviendrait le nouveau président de la République. Nous allons affiner ces chiffres avant de vous donner le plus rapidement et le plus objectivement qu'il nous sera possible l'information brute.
C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, dessiner nous-mêmes, guider au bout des chaînes de l'argent, écrire notre histoire à la première personne, être enfin des hommes et non des instruments. France socialiste, puisque tu existes,
et c'était Changer la vie, des paroles de Mikis Theodorakis, l'hymne du PS quand son chef était élu président de la République en 1981. Est-ce que vous avez le sentiment à l'époque, Jean-Pierre Chevènement, que ça allait changer la vie, comme on vient de l'entendre?
Mais écoutez, c'était d'abord une victoire formidable, parce qu'il avait fait, il avait fallu, pour ce qui me concerne, 17 ans de militantisme acharné pour en arriver là. Donc c'était une satisfaction profonde et je ne le regrette pas du tout, parce que qu'est-ce que auraient pu faire des jeunes gens de mon âge? Soutenir De Gaulle vieillissant, Pompidou, puis Chirac et Giscard, enfin, ou Giscard et quoi, je dirais non. Je pense que il fallait faire ce pari audacieux qui a quand même changé le visage de la France. Il s'est quand même produit des transformations profondes qui toutes n'ont pas été dans le mauvais sens. Disons que les gens ont davantage respiré, ont été plus heureux, il y a eu la retraite à 60 ans, il y a eu, qui a été apprécié, croyez-moi, par les ouvriers, il y a eu l'abolition de la peine de mort, la décentralisation qui a créé des foyers de responsabilité. Voyez-vous, tout jacobin qu'on me fasse la réputation d'être, je n'ai jamais été contre cette décentralisation. D'ailleurs, je suis maire et président d'une communauté d'agglomération d'une ville importante et j'y trouve beaucoup de satisfaction. En même temps, je pense que c'est très utile. Donc, le projet industrialiste de la gauche n'a pas vraiment réussi, je le raconte dans mon livre, puisque les nationalisations n'ont pas été utilisées d'une manière très, très, comment dirais-je, très efficace, mais grosso modo, malgré tout, il y a eu des restructurations utiles. Et quand les privatisations sont intervenues, eh bien, on a vendu toutes ces entreprises trois fois le prix qu'on avait acheté. Donc, vous voyez, même d'un point de vue purement capitaliste, ça aurait été une très bonne affaire.
Le livre dont vous faites, auquel vous faites référence, c'est Défi républicain, qui est un livre qui vient d'être publié chez Fayard, je le dirai tout à l'heure. Mais bon, à cette époque-là, bien entendu, ayant contribué à la victoire de François Mitterrand, votre vie, sinon celle de tous les Français, a changé. Vous devenez ministre. Qu'est-ce que ça fait de devenir ministre socialiste 23 ans après que les socialistes aient quitté le pouvoir, Jean-Pierre Chevènement, vous arrivez dans les ors de la République?
Écoutez, j'avais 42 ans. J'ai pris l'avion très tôt le matin parce que je soupçonnais que d'autres pouvaient me souffler l'hôtel de Clermont, qui m'avait été affecté la veille.
Vous étiez ministre de la Recherche, hein, je vous rappelle, votre premier poste ministériel.
Ministre d'État, oui, de la Recherche et de la Technologie.
Oui.
Donc voilà, il y avait un très bel hôtel particulier qui était affecté au ministère de la Recherche, mais pour le reste, c'était une coquille vide. Il avait fallu que je brandisse ma démission, déjà, la veille,
ah oui,
pour obtenir que je contrôle les budgets. Donc j'avais un budget important, à peu près 25 milliards de francs de l'époque, la tutelle des grands organismes de recherche, et j'avais des idées sur ce sujet. François Mitterrand m'avait posé la question, de quoi voulez-vous devenir ministre? Je lui ai dit, vous savez, je ne me sens pas assez... Enfin, j'étais un peu timide. D'ailleurs, François Mitterrand m'a regardé avec beaucoup de surprise, un léger dédain peut-être. Je lui ai dit, je connais la recherche, je suis rapporteur du budget. et je connais l'énergie, vous voyez, mes prétentions étaient très modestes. Alors, il m'a dit, vous, la recherche, vous avez la recherche. Mais il a fallu ensuite que je me batte pour en faire quelque chose, et effectivement, j'ai porté l'effort français de recherche de 1,8 à 2,40% du PIB, à travers aussi des programmes mobilisateurs, à travers un enthousiasme communicatif à l'occasion du grand colloque de 1980-82 sur la recherche et le développement technologique.
Et puis vous devenez ministre d'État, ministre de l'Industrie dans le deuxième gouvernement Mauroy, un ministre d'ailleurs discipliné, hein. Un ministre, ça ferme sa gueule, dites-vous, en février 83, et si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Alors justement, c'est ce que vous faites en quittant le gouvernement Mauroy en 1983, puisque vous êtes...
Le mois d'après, mais je savais déjà à ce moment-là, compte tenu des obstacles que j'allais rencontrer, que je serais amené à quitter le gouvernement. Donc je n'ai rien dit de plus que cela. Un ministre, ça ferme sa gueule. Et sinon, ça démissionne.
Et c'était en 1983.
J'ai quitté très normalement le gouvernement. Car il ne peut y avoir deux politiques au gouvernement. Mais s'il ne peut y avoir deux politiques au gouvernement, il peut y en avoir deux dans le parti. Je crois devoir vous dire, je crois qu'il est de mon devoir de vous dire, que je ne pense pas que le parti qui a été pris soit le bon. Je crois que la conception sur laquelle est assise la politique économique actuelle n'a rien de particulièrement socialiste.
Jean-Pierre Chevènement, qui a recommandé tout à l'heure à tous de relire attentivement le contenu du projet du Parti socialiste, s'est référé à une phrase de Lionel Jospin, « La politique de rigueur est une parenthèse à une réalité imposée » pour lancer cette mise en garde.
On croit quelquefois ouvrir une parenthèse, cher camarade. Et puis, on s'aperçoit que c'est un virage. Et si nous ne réagissons pas, bientôt, il prendra la figure du destin.
Et c'était votre première...
Il prendra la figure du destin.
Oui. Eh bien, justement, c'est ce que vous disiez en 83.
Absolument, oui.
Et vous ne retirez rien.
Ah, je n'ai rien à retirer.
Parce que la parenthèse, comme vous l'avez prévu, a duré longtemps.
Nous y sommes toujours. Et je dirais qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste a l'occasion de la refermer, puisque le débat sur la Constitution européenne et son contenu foncièrement libéral est en jeu. Alors, selon que le Parti Socialiste dira oui ou non à ce projet, ou bien il va s'enfoncer pendant des décennies dans un libéralisme destructeur, ou bien il va réouvrir un débat démocratique digne de ce nom, il va redonner de la substance au débat entre ce qu'il faut bien appeler la droite et la gauche.
Mais justement, en 83, il faut le rappeler, donc c'est la politique de rigueur voulue 2 ans après son arrivée au pouvoir par François Mitterrand, par Jacques Delors, qui était son ministre de l'économie à l'époque. Vous, vous étiez hostile, vous restez cependant au PS. C'est vraiment, on sent bien quand même chez vous, un homme qui n'est pas accroché à son ministère, quoi qu'il en coûte. C'est un peu l'inverse du comportement de la plupart des hommes politiques aujourd'hui. Vous attachez plus d'importance aux principes qu'aux honneurs.
Écoutez, c'est la vieille éthique républicaine. Je vous rappelle que Mendès France a démissionné 2 fois, De Gaulle aussi, Savary plus encore. Même François Mitterrand avait démissionné du gouvernement de Joseph Leniel. Tout le monde l'a oublié, mais lui en était fier.
Alors vous quittez le gouvernement par la porte, si je puis dire, du ministère de l'Intérieur. Vous y revenez de l'Industrie. Vous y revenez en 84 par la fenêtre du ministère de l'Éducation nationale. Et là encore, vous surprenez, très ambitieux, puisque vous proposez d'amener 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, mais en même temps avec des idées qui peuvent paraître un peu rétro, la nécessité, dites-vous, pour l'école d'apprendre à lire, à écrire, à compter.
Bien oui, écoutez, j'ai convoqué les pédagogues de l'INRP qui m'ont expliqué qu'on pouvait expliquer quelque chose à un enfant, s'il ne comprenait pas, on repassait l'année suivante. C'était la théorie du spiralaire. Moi, je leur ai répondu, je suis très surpris, mais pour qu'un enfant puisse entrer en collège, il faut quand même qu'il maîtrise les bases, la lecture, l'écriture, le calcul. On ne peut pas attendre indéfiniment qu'il comprenne. Ensuite, ce sera trop tard, vous ferez l'échec scolaire. Et en plus, il ne fallait pas redoubler, selon ces éminents chercheurs, qui étaient tous polytechniciens, car on avait étudié les cohortes d'élèves en 6e, et on s'apercevait que celles qui redoublaient en 6e ne réussissaient pas au bac. Je me suis risqué à leur poser les questions. Ne confondez-vous pas la causalité et la corrélation. Je ne suis pas polytechnicien, mais est-ce que les raisons qui font qu'ils ont des difficultés en sixième ne sont pas celles qui les conduisent à échouer au baccalauréat? Donc, il fallait réformer ce système de pensée qui pèse très lourdement sur l'administration de l'éducation nationale, et on n'en est pas sorti, car j'ai mis de côté un certain nombre de rapports qui, ensuite, ont réapparu. Le rapport Tello, là, qui vient de sortir, c'est la condensation de toute cette dérive psychopédagogique qui, à mon avis, oublie que un bon système d'éducation doit non pas mettre l'élève au centre de l'école, mais mettre le savoir, donner les bases nécessaires à l'élève pour qu'il puisse progresser et aller aussi loin qu'il est en lui, parce que c'est cela aussi l'élitisme républicain. Et j'ajoute qu'une école forte, exigeante, est de l'intérêt des enfants des couches populaires, qui n'ont pas ailleurs de soutien, pas de précepteurs, pas d'établissements privés qui peuvent servir de recours. Donc j'ai toujours défendu une école forte, structurée, mettant l'accent sur, il faut bien le dire, le travail. Non pas tant le principe de plaisir, mais la joie qu'on éprouve quand on a réussi, par exemple, une belle petite dissertation, ou bien une version latine, ou bien quand on a résolu un problème de mathématiques.
Et les valeurs aussi des instituteurs d'autrefois. C'est en ça que je disais que, pour certains, vous étiez un peu rétro, Jean-Pierre Chevènement.
Bon, peut-être que je suis rétro, mais j'ai rétabli l'éducation civique en 1985, sur la base d'un rapport de Claude Nicolet. Éducation civique qui avait été supprimée par Edgar Faure en 1968. Donc effectivement, j'ai réagi contre ce mouvement post-68ard pour rappeler ce qu'est un citoyen, que la citoyenneté ne va pas sans quelque abnégation, ce qu'est le sens de l'intérêt général. Et puis, disons que je n'ai pas assez fait, en tout cas, il est évident que quand le suivi n'existe pas, on ne peut pas arriver au résultat. Mais je crois toujours nécessaire un apprentissage d'éducation civique dans les programmes de l'éducation nationale.
Merci Jean-Pierre Chevènement. Je rappelle, pour en savoir plus, que vous venez de publier, donc, un mélange de vos souvenirs et de vos réflexions aussi sur le monde actuel dans un livre qui s'appelle « Défi républicain » publié chez Fayard. À lire également la biographie que vous ont consacrée Franck Herriot et Laurent Chabrun au Cherche Midi éditeur. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, documentation et archivina.